VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 7h à Washington, 11h en temps universel. Des milliers de réfugiés et migrants prisonniers dans des centres de détention à Tripoli risquent d'être victimes des combats en cours entre milices et doivent être évacués de Libye de toute urgence, assure aujourd'hui Médecins sans frontières dans un communiqué. L'ONG écrit, au troisième jour d'un fragile cessez-le-feu à Tripoli, plusieurs milliers de réfugiés et migrants sont toujours pris au piège dans les centres de détention de la capitale. MSF demande que les mécanismes de relocalisation au point mort depuis plusieurs mois soient activés de toute urgence afin que ces personnes soient évacuées du pays le plus rapidement possible. Les affrontements entre milices et groupes armés divers qui se partagent le contrôle de la capitale libyenne ont fait au moins 63 morts et 159 blessés selon le ministère de la Santé. L'ex-président angolais José Eduardo Santos prend demain samedi sa retraite politique définitive en cédant la direction du parti au pouvoir à son successeur à la tête du pays, João Lourenço, épilogue d'une transition crispée entre les deux hommes. À la fin de règne absolu entamé en 1979, M. Dos Santos, malade, avait exprimé le souhait de quitter le pouvoir en douceur à contre-pied de nombre de ses collègues africains. Il y a un an, il n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat de chef d'État et transmis le témoin à son ex-ministre de la Défense, João Lourenço. Prudent, il avait toutefois gardé la direction du tout-puissant mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, le véritable siège du pouvoir. Demain donc samedi, le camarade numéro 1, âgé de 76 ans, va également rendre à Lourenço les clés du parti réuni en congrès extraordinaire. Dans le nord-est de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 88 morts. Deux décès ont été enregistrés pour la première fois à Butembo, au nord de Beni. Le point avec Morgane Guériec.
Les deux premiers cas de décès confirmés à Butembo sont une femme et un personnel soignant qui a été en contact avec elle. C'est ce qu'a indiqué hier le ministère de la Santé. La femme avait fui Beni, une autre zone touchée, où elle avait refusé de coopérer après être tombée malade. Peu avant son départ hier pour cette ville, Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé, a donné un dernier bilan de 129 cas, 88 décès, dont 31 sont des cas probables et 57 des cas confirmés. À Beni, les autorités ont de nouveau rencontré des habitants d'un quartier qui manifestaient des résistances aux mesures de prévention. À Butembo, grand carrefour de près d'un million d'habitants, l'inquiétude grandit. Pendant la précédente épidémie dans la province de l'Équateur, un seul cas a été enregistré à Mbandaka, autre grand carrefour d'environ un million d'habitants. La fin de l'épidémie a été décrétée le 24 juillet avec un bilan total de 33 morts.
Le chanteur et opposant ougandais Robert Kyagulani, connu sous le nom de Bobby Wine, a affirmé hier être déterminé à rentrer dans son pays après un traitement médical aux États-Unis malgré une inculpation pour trahison. Monsieur Kyagulani, âgé de 36 ans, s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Il a été inculpé au même titre que 32 co-accusés à la suite d'un incident à Arua dans le nord de l'Ouganda le 14 août, au cours duquel des pierres ont été jetées sur le convoi de M. Museveni. Lors de violences, le chauffeur du chanteur a été tué par les forces de l'ordre et il a lui-même été arrêté, ce qui a entraîné des manifestations de protestation qui ont été violemment réprimées par la police et l'armée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En direct de la rédaction de La Voix de l'Amérique, le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, est arrivé ce vendredi à Kaboul lors d'une visite surprise au cours de laquelle il rencontrera le président afghan Ashraf Ghani et le nouveau commandant des forces américaines et de l'OTAN. Les États-Unis ont actuellement 14 000 militaires déployés en Afghanistan où ils fournissent le plus gros des effectifs de la mission de l'OTAN pour soutenir et former les forces de sécurité afghanes. Washington est secoué par une tribune fort critique du président Donald Trump, publiée mercredi par le New York Times. Selon ce grand quotidien américain, elle a été écrite par un haut responsable de l'administration Trump qui décrit une situation chaotique à la Maison-Blanche. L'auteur anonyme affirme faire partie d'une résistance au sein de l'administration pour empêcher, dit-il, les pires penchants du président Donald Trump. Abdourahman Dia, décryptage.
Alors que la polémique soulevée par le livre « Apparaître » du célèbre journaliste Bob Woodward sur la Maison-Blanche de Donald Trump vient à peine d'être lancée, cet éditorial fait l'effet d'une bombe dans la capitale américaine. Cet anonyme, présumé employé de l'administration, dit ceci. « Je travaille pour le président, mais j'ai décidé, tout comme des collègues partageant les mêmes idées, de contrecarrer une partie de son agenda et ses pires inclinaisons. » Ce présumé officiel peint un tableau sombre de la Maison-Blanche. « Nous pensons que c'est au pays que nous sommes d'abord redevables, et le président continue de se comporter d'une manière préjudiciable pour le pays. Le fond du problème, c'est l'absence de moralité du président. » Mais dans sa réaction, le président s'est montré plutôt combatif.
Quand vous me parlez d'une certaine source anonyme au sein de l'administration qui est certainement en train d'échouer et qui n'est probablement pas ici pour les bonnes raisons, et le New York Times est en train d'échouer.
Le président a plus tard tweeté, se demandant si cela n'était pas de la trahison, appelant aussi le New York Times à révéler l'auteur de l'éditorial anonyme pour des raisons de sécurité nationale. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a non seulement affirmé ne pas être l'auteur de l'article, il appelle ce dernier à démissionner s'il ne croit pas en l'agenda du président.
C'est triste de voir quelqu'un faire ça. Pour moi, si vous ne pouvez pas faire ce qu'on vous demande, vous n'avez qu'un choix. C'est de partir. Et cette personne, d'après le New York Times, a non seulement décidé de rester, mais de saper le programme du président.
Au Congrès, démocrates et républicains sont divisés sur la question. Le sénateur Ted Cruz du Texas préfère toutefois se focaliser sur les bons points de l'administration.
Je l'ai lu, je ne sais pas qui l'a écrit. Mais vous savez, en ce moment, je porte mon attention sur les audiences de confirmation de Kavanaugh. J'ai passé une bonne partie de la journée sur ces audiences. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça à présentement.
Le démocrate Ed Markey appelle ses collègues républicains à suivre l'exemple de cet éditorialiste anonyme et dénoncer l'attitude du président Trump.
Cela démontre au moins qu'une personne à la Maison-Blanche a trouvé nécessaire de lancer l'alerte sur ce qui se passe derrière la scène. Nous espérons que les républicains au Sénat commenceront à faire la même chose pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on approuve les yeux fermés tout ce qui vient de la Maison-Blanche.
Le New York Times, que certains critiquent pour sa décision de publier cet éditorial anonyme, se défend à travers un communiqué, se déclarant très fier de sa décision qui a permis, selon le journal, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la Maison-Blanche sous Donald Trump.
Les négociations commerciales que le Canada et les États-Unis mènent depuis une dizaine de jours dans la capitale américaine pour rénover l'accord de libre-échange nord-américain ALENA se poursuivront ce vendredi après, je cite, « de bons progrès jeudi ». La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a insisté toute la journée de jeudi sur le fait qu'il y avait beaucoup de bonne volonté de part et d'autre, sans toutefois s'avancer sur l'issue des discussions ni sur le calendrier, mais s'est dite absolument convaincue qu'un bon accord pour le Canada, les États-Unis et le Mexique est tout à fait atteignable. Les deux Russes soupçonnés par Londres d'avoir empoisonné au Novichok, l'ex-agent double russe Sergei Skripal, se sont fait passer pour des hommes d'affaires de Saint-Pétersbourg afin d'obtenir un visa pour le Royaume-Uni, rapporte aujourd'hui le quotidien de Daily Telegraph. Ces hommes, identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Boshirov, deux noms que les autorités britanniques pensent cependant être des pseudonymes. Londres a annoncé mercredi avoir émis un mandat d'arrêt européen contre les deux hommes qu'ils accusent d'être des officiers de renseignement, du renseignement militaire russe. Et pour terminer, l'incertitude continue de régner aujourd'hui sur l'avenir des discussions de paix sur le Yémen. Les rebelles houthis posent des conditions pour venir à Genève en Suisse, tandis que la délégation gouvernementale menace d'en partir si les rebelles n'arrivent pas rapidement. Malgré tout, l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, a indiqué hier dans une déclaration écrite avoir bon espoir de voir la délégation des houthis présente à Genève pour faire avancer lancer le processus politique. Les discussions de Genève sont les premières depuis l'échec en 2016 d'un processus de paix qui avait duré plusieurs mois et c'était au Koweït. Jean-Roger Billon à ce micro, prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi, bon week-end à tous. Merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.